Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Pour ce premier épisode de l'année 2022, je tenais, malgré le contexte que nous connaissons tous, vous présenter mes meilleurs vœux. Nous allons parler dans cet épisode d'un sujet que vous m'avez réclamé depuis plusieurs mois. Il s'agit du sujet du sommeil du bébé. Je suis ravi d'accueillir Audrey Njavé, fondatrice et directrice du centre périnatal Happy Mom and Baby. Elle est infirmière diplômée d'État en France, clinicienne en périnatalité au Canada. Elle est aussi autrice chez Albin Michel et chez Marabout. Et je vous invite aussi à la retrouver et à la suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Je vous mettrai le lien en description. Le sommeil, je crois que c'est sûrement le sujet qui est le plus sensible chez tous les parents et chez tous les nouveaux parents. Parce qu'on est crevé, qu'on n'en peut plus, et que tout le monde nous dit que bah c'est normal, ça va passer, qu'on comprend pas trop de quoi on se plaint, est-ce qu'il fait ses nuits, et puis ça va durer jusqu'à quand, et puis de toute façon tu dors avec, et puis de toute façon tu dors séparément. Quoi qu'on fasse, on a l'impression que ça ne va pas, on sait juste qu'on est crevé. Et puis au milieu de tout ça, il y a des gens qui vont nous dire que, en mettant une certaine somme d'argent, un petit peu par miracle, en 2 semaines, 1 mois, le bébé va tout à coup dormir et que ça n'y aura plus jamais de problème de sa vie. Et bien moi, pour faire le tri au milieu de tout ça, j'ai demandé à Audrey si elle pouvait, grâce à son expertise, à son expérience, nous donner un petit peu le vrai du faux et nous expliquer comment ça fonctionne. Et j'ai voulu lui commencer par lui poser cette première question. Audrey, c'est quoi un bébé qui fait ses nuits ? Je vous souhaite une très bonne écoute.
Alors, un bébé qui fait ses nuits, en fait, concrètement parlant, cette phrase, elle ne veut rien dire. Voilà.
Okay.
Cette phrase, elle ne veut rien dire parce que faire ses nuits... Alors, si on essaye vraiment d'analyser dans les détails la question, faire ses nuits, déjà de base, d'où on part ? D'où on part ? Parce que faire ses nuits, ça peut vouloir dire dormir de 20h à 8h du matin, de minuit à 6h du matin. Ça veut tout simplement dire... Est-ce que ton bébé dort la nuit ? Donc, les bébés dorment la nuit. Oui, c'est la plupart, je veux dire, un bébé dort quand même. C'est-à-dire que vraiment, cette question, comme je te dis, elle n'a pas de sens parce qu'en fait, un bébé dort la nuit. Donc, si un bébé dort la nuit, pourquoi est-ce qu'on pose la question « Est-ce que ton bébé fait ses nuits ?» Tu comprends ? Le fondement même de cette question n'a aucun sens. Donc, en fait, elle est... En fait, il faut comprendre dans cette question, c'est... Est-ce que tu galères avec le sommeil de ton bébé ? C'est ça. Cette question, c'est est-ce que tu galères avec le sommeil de ton bébé ? Est-ce que tu galères comme moi, j'ai galéré avec le sommeil de mon bébé ? Et quelque part, si tu me dis que toi aussi tu galères, bah, je me sentirais un petit peu moins seule. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut comprendre derrière cette question ? Finalement, c'est toi, par rapport à moi, comment est ta vie de parent en fait ? C'est-à-dire que c'est vraiment cette notion de se comparer. C'est-à-dire cette question... Est-ce que ton bébé fait ses nuits ? Clairement, inconsciemment, implicitement, indirectement, elle veut dire « Est-ce que tu galères comme moi ? J'ai galéré. » C'est tout. Et si c'est le cas, bah, si tu me dis oui, je vais me sentir moins seule. C'est surtout ça. Parce que si on analyse la question, elle ne veut rien dire. Si on connaît le sommeil de l'enfant, si on connaît son fonctionnement, si on sait que c'est un processus qui va évoluer, va devenir mature au fur et à mesure du temps, comme n'importe quel besoin fondamental d'un être humain, eh bien, on sait que ça ne veut rien dire, en fait. C'est comme, est-ce que ton bébé marche ? Ben, il va marcher un jour, t'inquiète pas, mais il va marcher quand il sera prêt. Donc, tu vois, c'est la même chose, en fait. Est-ce qu'on dit, est-ce que ton bébé mange ? Ben, tu sais, là, il boit encore des biberons parce qu'il a tel âge. Donc, la réponse serait, ok, mon bébé a 3 mois, il se réveille encore 3 fois par nuit, mais il dort la nuit, oui. Mon bébé a 9 mois, il se réveille peut-être encore 1 fois par nuit, mais il dort la nuit, oui. Donc, dis-moi, cette question, finalement, elle n'a aucun sens, clairement.
Et est-ce que derrière cette question, il n'y a pas aussi, est-ce que toi, tu arrives à dormir ?
Aussi, peut-être, tu vois. Mais c'est pour ça que, à la limite, c'est ce qu'on devrait poser comme question. Est-ce que tu t'en sors? Comment ça va? Comment ça va? Est-ce que tu arrives à gérer les réveils fréquents de ton bébé la nuit qui sont normaux? Est-ce que tu arrives? Est-ce que comment tu t'en sors? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin que je t'aide? Est-ce que tu as besoin que je prenne le relais peut-être la journée pour te reposer? C'est ça qu'on devrait poser comme question. C'est est-ce que toi, parent, comment tu vis ces changements et comment tu vis les nuits hachées de ton bébé qui sont normales? D'accord, c'est-à-dire que, parce que sous-entendu, le parent qui va répondre, bah non, il fait pas ses nuits, mais pourquoi le t'es, tout de suite, tu vas entraîner un sentiment de culpabilité chez le parent, qui va te dire, mais attends, c'est pas normal. Bah si, c'est normal. Selon, il y a des choses qui sont normales, il y a des choses qui le sont peut-être un peu moins, il y a des choses qui sont optimales, il y en a qui le sont un peu moins. Des fois, il y a des choses qui viennent expliquer certains comportements, mais un bébé qui se réveille la nuit, un bébé à proprement parler, un mois, deux mois, trois mois, jusqu'à six mois, sept mois, huit mois, un bébé à l'été ou autre, chaque situation est évaluable, mais c'est normal que mon bébé se réveille encore la nuit. C'est normal. Donc, je suis normale, ma vie est normale, mon bébé est normal. Mais oui, peut-être que je ne le vis pas super bien. Peut-être que je suis KO moi aussi. Peut-être que j'ai besoin d'aide. Peut-être que j'ai besoin de me reposer. C'est ça la vraie question qu'on devrait poser aux familles. C'est comment ça va? Comment tu t'en sors avec tout ça là? Les nuits, l'alimentation, ton allaitement, cette nouvelle vie. Comment tu t'en sors? C'est ça qu'on devrait poser.
Je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que on a cette vision qui est très performative aussi par rapport au sujet. C'est est-ce que ton enfant fait ses nuits et je te rejoins aussi dans le fait que c'est aussi pour s'assurer que tu galères comme moi, j'ai galéré, parce que sinon déjà c'est pas juste aussi. Le tien fait ses nuits et que les miens les a pas fait. Et juste pour préciser, tu parles de bébé de plusieurs mois. Jusqu'à quand est-ce qu'on peut considérer qu'un bébé qui se réveille 2, 3, 4, allez, 5 fois à la nuit, c'est OK, ou sinon, il y a peut-être des choses à rechercher plus spécifiquement.
En fait, le sommeil suit un processus de maturation bien particulier, bien précis. On a l'immaturité presque complète du sommeil dans les 3, 4 premiers mois de la vie d'un bébé, parce qu'un bébé commence à dormir dès la 27e semaine de grossesse in utero. C'est-à-dire qu'il commence à enchaîner, à alterner les cycles éveil, sommeil, éveil, sommeil, sur un rythme complètement anarchique, avec presque aucune règle, mais on peut calculer grâce au mouvement oculaire in utero, grâce au mouvement, à l'activité nerveuse, etc., in utero, vraiment cette alternance de rythme-là, donc un rythme ultradien, on appelle ça le rythme ultradien. Ce processus va se développer petit à petit pour qu'à environ 3-4 mois, on passe sur un processus dit circadien, où là, en fait, déjà, on passe une étape dans le processus d'autonomie du sommeil et de maturation du sommeil, où finalement, on va être avec trois cycles, on va avoir trois phases de sommeil. Il y a une phase qui est très compliquée à adopter et à intégrer dans cette nouvelle vie de parents, c'est la phase d'endormissement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, mon bébé pouvait manger, être actif et boum, d'un coup, il dort. C'est ok, super, génial, je vais le coucher, génial. Là, maintenant, le sommeil est induit par un contexte. Et ça, souvent, c'est comme on dit en québécois, c'est une coche à prendre pour aller se dire, ok, c'est bon, ton sommeil change, donc je dois m'adapter. C'est maintenant que les vraies choses commencent, d'accord? Et finalement, quand tu te rends compte, Cédric, c'est quelque chose qu'on fait avec l'alimentation, c'est quelque chose qu'on fait avec les autres acquisitions. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait avec le sommeil, alors que le sommeil est un besoin fondamental sur le même niveau que les autres besoins. Le besoin de manger, le besoin de dormir, le besoin de se mouvoir, le besoin affectif, le besoin émotionnel. Tout ça, on est attentif, on se dit « Ok, mon bébé commence à s'intéresser à ce que je mange, bah, peut-être que c'est le moment que je donne à manger. Bah, » Mon bébé commence à avoir des difficultés avec son sommeil puis s'endormir moins facilement qu'avant, bah peut-être que c'est le moment que je change. Mais on ne fait pas ce switch-là dans sa tête parce que le sommeil, a priori, quand on est un bébé, ce n'est plus un besoin fondamental. C'est autre chose. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc, tu vois, c'est dommage parce qu'on devrait le placer au même niveau. Donc, en fait, petit à petit, le bébé va se développer. Puis, il va se réveiller la nuit, il va sortir en tout cas du sommeil, parce que c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il a des cycles de repos. Puis, il va sortir du sommeil pour diverses raisons. La faim étant la première. La faim étant la première des raisons qui va sortir un bébé de son sommeil. C'est-à-dire que quand il va arriver en haut d'un cycle de sommeil, donc proche de l'éveil, ben là, il y a plusieurs facteurs. Donc, la faim va le faire sortir de l'éveil, va dire okay, du sommeil, va dire « Ok, j'ai besoin de manger ». Donc, je me réveille. Et après, je renchaîne un autre cycle. Ça, c'est normal. Puis ça, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de règle. Même si en théorie, on apprend qu'il faut que le bébé fasse ses kilos et qu'il ait je ne sais pas quel âge. Mais en fait, Il n'y a pas de règle parce que on est, aucun être humain n'est égal face à sa sensation de faim et à sa satiété, en fait. Ça, c'est pour les bébés qui ne sont pas allaités. Donc, ça veut dire que les apports nutritionnels d'un enfant doivent être comblés sur une période de 24 heures, donc nuit compris, pour qu'il y ait le moins en moins de réveil. Maintenant, un bébé qui, la journée, ne comble pas entièrement ses besoins nutritionnels, bah, va se réveiller la nuit, peut-être pour continuer de manger. Donc, dans ces cas-là, on va rééquilibrer ses apports nutritionnels la journée pour éviter peut-être les réveils nocturnes. D'accord ? Mais jusqu'à 6-7 mois, j'ai envie de te dire, on est dans quelque chose d'a priori normal. D'accord ? Alors, j'aime pas le mot normal, tout le monde le sait, les gens qui m'écoutent et qui me connaissent savent que je déteste dire le mot normal, mais en tout cas, théoriquement, on est sur quelque chose qui serait acceptable, qui serait pas inquiétant.
Moi, j'utilise le mot commun.
Voilà, qui serait, voilà, c'est commun, c'est acceptable, c'est, tu vois, ok. Maintenant, ça se peut que ça dure un petit peu plus longtemps que 7 mois. Ça se peut que ça dure 8 mois, 9 mois, même 10 mois parfois. Puis ça se peut que ça dure moins aussi. Tu sais, c'est comme, c'est des repères qu'on a. Maintenant, un bébé qui se rendort facilement, c'est-à-dire qu'il sort de son sommeil, câlin, il se rendort. Il sort de son sommeil, biberon, il se rendort. Il sort de son sommeil, allaitement, et je vais traiter l'allaitement à part. Il se rendort, c'est ok. Maintenant, un bébé qui hurle la nuit, qui pleure beaucoup la nuit, qui se réveille sur de longues périodes, qui ne se rendort pas facilement. On sent qu'il y a quelque chose, vraiment là, on est en dehors du commun, comme tu dis. Je le sais en tant que parent, je sais que là, je vis un schéma qui n'est pas celui que je devrais vivre. Là, il y a certainement une raison à ça. Il y a une explication. Il y a quelque chose qui va nous dire, ok, là, ton bébé, voilà pourquoi il se comporte comme ça la nuit, voilà pourquoi le sommeil est difficile. Puis, on va associer le sommeil diurne au sommeil nocturne. C'est-à-dire, l'un ne va pas sans l'autre. La première question, mon bébé se réveille la nuit, comment il dort la journée ? Ça, c'est la première question. OK, la journée, bah, c'est pareil, il ne dort pas. OK, bon, là, peut-être qu'on a quelque chose à évaluer. Mais si je fais des bonnes siestes, que j'ai 7 mois, que je fais une bonne sieste le matin, une bonne sieste l'après-midi, peut-être une petite en fin de journée, et que je me réveille 2-3 fois la nuit juste pour manger, je me rendors, il n'y a rien d'alarmant du tout. D'accord ? Et vraiment, il faut laisser le temps se passer un petit peu.
C'est possiblement juste chiant.
Voilà, juste chiant. Et encore, j'ai envie de te dire, c'est si il se rendort vite, tu vois, rapidement. Bon, tu sais, des fois, on se lève pour aller faire pipi, tu sais, ça prend le même temps que donner un biberon à un bébé.
Ouais.
Voilà. Donc, tu sais, on va dire, c'est sur la durée, c'est pénible. Mais je te dirais que par habitude, ce qui est épuisant, c'est quand l'enfant ne se rendort pas, quand l'enfant met beaucoup de temps à s'endormir la journée aussi, quand le sommeil devient vraiment le centre de notre vie et on focus là-dessus à péter les plombs. Là, c'est pas normal d'en arriver là. D'accord ? Là, c'est pas normal. Mais, tu sais, voilà, 7-8 mois, on va dire, j'ai envie de te dire, ça reste comment ? Un bébé allaité, un bébé qui va être allaité au sein de maman, c'est une structure de sommeil qui est complètement différente. Parce qu'en fait, la structure de sommeil est intimement liée à celle de la mère par le biais de l'allaitement maternel. Donc, le cycle de l'enfant va dépendre aussi du cycle de la maman. Mais dans la nuit, en fait, en gros, pour faire très simple, je bois, je stimule le sein de la maman, le lait continue de se produire, je continue d'être allaité. Si j'ai une période de non-stimulation de l'allaitement du sein de la maman, c'est-à-dire que, je ne sais pas, admettons un bébé dort de 8h à 8h du matin, souvent quand c'est un primo-allaitement, eh bien le cerveau va enregistrer une information, celle d'arrêter de produire du lait parce qu'il n'y a pas eu de stimulation pendant une longue période, plus de 6 heures. Donc, je n'ai pas eu de stimulation de prolactine qui est essentielle à la production et au maintien de l'allaitement. Et tous les êtres humains ont des productions hormonales qui rencontrent des pics en période nocturne. Ça, c'est n'importe quelle hormone. L'allaitement étant un processus hormonodépendant, eh bien, c'est comme l'humeur, par exemple. Quelqu'un qui ne dort pas la nuit va avoir des troubles de l'humeur. Un bébé qui ne tète pas une à deux fois par nuit, qui ne va pas stimuler cette sécrétion de prolactine, appuyer sur le bouton allaitement, eh bien, va implicitement et indirectement entraîner un processus de sevrage. Donc, un bébé qui va téter la nuit, ça fait partie de la physiopathologie de l'allaitement. C'est comme ça. Maintenant, on va me dire souvent jusqu'à quel âge ? Ben, jusqu'à ce que tu décides de sevrer ton enfant ou qu'il décide de sevrer. C'est une machine. Je veux dire, l'allaitement, faut voir le corps un peu comme une machine, quoi, comme une usine où mon cerveau, c'est le chef d'orchestre qui va envoyer des messages, je veux dire, au reste du corps. Et tant que je entretiens ces messages-là, et ben, ils continuent de se passer, en fait. Puis les jours où je veux arrêter, voilà. Ça, c'est si j'ai un bébé, voilà, un schéma normal commun d'un bébé allaité, c'est 1 à 3 réveils nocturnes maximum avec un rendormissement rapide pendant toute la durée de l'allaitement. Exception, bien sûr, quand j'ai des mamans, c'est pas leur primo-allaitement, c'est des allaitements qui sont rapprochés, par exemple, ben, ça se peut que ma production ne se tarisse pas parce que je l'entretiens depuis peut-être 1, 2, 3 ans. Donc, il y a des exceptions, d'accord ? En santé, il y a toujours des exceptions qui viennent nous faire mentir dans ce que l'on dit. Et c'est comme ça qu'on grandit, nous aussi, puis qu'on apprend. Donc, de manière générale, le fonctionnement d'un bébé non allaité, allez, entre 7 et 8 mois, on peut s'attendre à avoir des périodes nocturnes qui s'enchaînent sans aucune sortie du sommeil. Et pour un bébé allaité, ben, jusqu'au sevrage, induit ou naturel, on s'attend à ce qu'il y ait encore 1, 2, 3 réveils.
D'accord.
Sinon, pour conclure cette partie, 4 ans, 4 à 6 ans, c'est là où la maturation du sommeil atteint son maximum. C'est-à-dire que c'est à partir de cet âge-là, non pas qu'on va avoir un enfant qui fait ses nuits ou qui dort toute la nuit ou qui dort correctement, mais on va avoir un enfant qui va avoir une structure de sommeil qui se rapproche beaucoup plus de celle de l'adulte, donc qui va avoir des cycles de sommeil beaucoup plus longs, de 3-4 heures plusieurs fois par nuit au lieu d'une à 2h30, en gros.
Mais t'as anticipé ma question suivante, en fait, qui était de dire « Ok, mais jusqu'à quand, tu vois ?» Donc, très bien. Mais je m'autorise aussi à penser que, bien entendu, comme tu l'as dit en santé, il y a forcément des exceptions qui existent, qui viennent te faire mentir.
Complètement. Complètement, c'est ça.
Tout comme je m'autorise à penser qu'il y a aussi peut-être des sujets pathologiques qu'on peut détecter bien avant les 4-6 ans, mais qui peuvent aussi traîner jusqu'aux 4-6 ans, et même plus longtemps.
Exactement. D'où ma spécialisation dans le sommeil de l'enfant. C'est-à-dire que, en tant que professionnelle de santé, donc moi je suis infirmière spécialisée en périnatalité, du coup je m'occupe que des bébés et des mamans depuis une vingtaine d'années à peu près, et à un moment je n'étais plus satisfaite de la réponse qu'on donnait aux parents. Laissez le temps, il va faire ses nuits. Puis je voyais ses parents souffrir, vraiment, ses enfants aussi souffrir. Et cette réponse ne me convenait plus, d'accord ? Ne me convenait plus parce que je me suis dit, attends, quand un parent vient te voir et puis vient dire au médecin, admettons, oh ben là, mon fils, il ne mange pas, tout de suite, c'est une batterie d'examen. Quand on vient te dire, ben, mon fils a 2 ans, je ne sais pas moi, il ne marche pas, c'est une batterie d'examen. Le sommeil, ben, c'est un besoin fondamental, comme je l'ai appris à l'école, c'est un besoin fondamental qui est nécessaire à la survie de l'être humain, mais qui n'est pas pris en considération quand il concerne les enfants au sérieux. C'est-à-dire qu'un adulte qui vient voir un médecin puis qui lui dit « Oh là là, moi la nuit je me réveille toutes les heures, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'arrive pas à me rendormir. » Boum, batterie d'examen, traitement, etc., etc. Mais un bébé, quand un parent vient te voir et te dit bah, « Mon bébé se réveille toutes les heures la nuit, je ne sais pas moi, il a 9 mois, 10 mois, il y a quelque chose qui ne va pas, il ne dort pas la journée, j'en peux plus. » Bah c'est normal, un bébé c'est comme ça. Bah moi ça ne me convenait pas comme réponse. Parce que je ne trouvais pas ça cohérent avec la réponse qu'on donnait aux adultes. Sachant qu'un bébé est un être, je veux dire, en processus d'autonomie. Donc, en fait, c'est-à-dire que c'est comme un adulte, je veux dire, c'est un être humain, c'est juste que la seule différence, c'est que lui, il va vers un processus d'autonomie, je veux dire, et de maturation de son système pour devenir un adulte. Donc, on devrait faire la même chose. On devrait dire, ah oui, bah attendez, on va chercher, qu'est-ce qui se passe ? On devrait avoir porté la même réponse à un enfant, à un bébé, qu'à un adulte. Et donc, c'est là où j'ai commencé à me dire, attends, Audrey, tu vas aller chercher un petit peu c'est quoi la particularité du sommeil de l'enfant, et puis tu vas essayer, toi, d'apporter une réponse différente. Puis, je suis partie en Amérique du Nord et j'ai découvert un système de santé qui est très porté sur le global. Donc, en fait, ça m'a plu et c'est venu compléter un petit peu ce que j'avais commencé en me disant, ah oui, tu vois, il y a une façon de faire aussi qui est beaucoup plus holistique, beaucoup plus globale, qui va permettre d'aller chercher tout ce qu'il y a autour du symptôme avant de traiter finalement, enfin, pour aller chercher la cause avant de traiter que le symptôme. Donc ça, j'ai fait un mix un petit peu avec mes différentes expériences professionnelles et justement, je suis allée chercher pour apporter d'autres réponses et je me suis spécialisée dans la prise en charge du sommeil pour dire, OK, là, c'est un schéma qui est normal, donc celui qu'on a un peu décrit avant. Mais là, effectivement, ce n'est pas un schéma qui est normal, qui est optimal. Non, là, il y a quelque chose qui me dit que il y a un frein. Il y a quelque chose qui vient bloquer ton bébé, qui vient perturber son horloge biologique, parce que c'est l'horloge biologique qui régit les besoins d'un être humain. Et j'ai commencé du coup à chercher. Puis finalement, on se rend compte que par exemple, un reflux gastro-œsophagien est un élément perturbateur du sommeil de l'enfant. Et indirectement, d'autres de ses besoins, en fait. Des difficultés de orales, des difficultés, par exemple, qui se situent au niveau de l'alimentation orale, parce que l'enfant découvre le monde par sa bouche. Et donc, pour un allaitement maternel, par exemple, ou même un biberon, si un bébé n'est pas capable d'ouvrir, de fermer, de mobiliser les muscles de sa bouche, de sa langue, de ses lèvres correctement, son alimentation va être impactée et donc son sommeil va être impacté. Donc, en fait, c'est tous ces liens. Finalement, une chose peut entraîner beaucoup de conséquences et pas directement, mais en dernier, va impacter le sommeil. Comme un adulte qui fait du reflux, excuse-moi, mais tu ne dors pas. Comme un adulte qui va, on parle du côté pathologique, mais on peut avoir aussi du côté émotionnel, affectif. Moi, je suis désolée, mais qui arrive à dormir sereinement l'éveil d'une rentrée scolaire ou d'un nouveau boulot ? Personne, on est tous au taquet, le stress, enfin tu vois. Donc en fait, j'ai adapté et rapporté, si tu veux, ces perturbations de l'adulte qui sont en considération à l'enfant finalement, parce que oui, l'enfant peut aussi vivre des choses émotionnelles et affectives qui peuvent venir perturber et le sortir de son sommeil. Au niveau pathologique, c'est ça, on va avoir du reflux, on va avoir parfois des freins bucco-restrictifs, une mobilité de la langue, de la bouche et des muscles de toute sa sphère orale qui viennent perturber son alimentation. On peut avoir aussi tout ce qui va être au niveau du corps. Enfin, je veux dire, moi, je suis infirmière, donc j'ai bossé beaucoup en pédiatrie. On peut avoir tout ce qui est torticolis congénitaux mal soignés. On peut avoir les plagios. Enfin, il y a toute une liste. En fait, la liste est très, très longue. Et on cherche et on se dit, OK, selon des protocoles, selon un suivi, un accompagnement spécifique, un recueil de données bien précis, on va tracer toute l'histoire de cet enfant depuis même son contexte d'arrivée, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est patho ? Est-ce que c'est émotionnel ? Est-ce que c'est affectif ? Est-ce que c'est contextuel ? Est-ce que c'est juste une méconnaissance de la part des parents ? Parce que des fois aussi, on ne sait pas comment ça fonctionne. Personne n'a le manuel. Donc, dans ces cas-là, c'est juste de l'enseignement. Voilà. Mais oui, il y a des freins au sommeil. C'est-à-dire qu'un parent ne vit pas des difficultés dans l'accompagnement du sommeil de son enfant juste par plaisir. Non, j'en ai jamais vu encore.
Et toi, ton job, est-ce que c'est de faire dormir bébé ou est-ce que de trouver pourquoi bébé ne dort pas ?
Alors, je ne suis pas masseuse bien-aimée du sommeil. Je ne suis pas autre chose qu'une professionnelle de santé qui doit trouver pourquoi l'enfant ne dort pas. Voilà, moi, je ne fais dormir personne, comme je ne fais manger personne, comme je ne fais marcher personne, comme je ne fais rien faire à personne. J'ai des connaissances, j'ai des compétences, j'ai de l'expérience, j'ai des formations qui me permettent aujourd'hui de relever... Moi, je parle souvent, je forme du personnel et je dis souvent qu'ils me permettent d'ouvrir mes tiroirs et d'allumer des lumières. Mon travail, c'est ça, c'est de me dire en fonction de tout le récit précis que j'ai récolté chez cette famille, c'est d'ouvrir des tiroirs et d'aller tirer le bon document pour les accompagner et dire « Ok, c'est ça, voilà pourquoi ton enfant ne dort pas, maintenant on va travailler là-dessus. » Et après, si tu veux, on est obligé finalement de travailler sur un rééquilibrage, parce que s'il y a quelque chose qui est venu perturber un besoin fondamental, l'horloge biologique de ce besoin fondamental, elle est perturbée. Donc, il va falloir que je la rééquilibre. Donc, il va falloir que je travaille sur un rééquilibrage.
Ok, mais alors, pour le coup, je ne comprends pas, parce que moi, j'ai entendu parler qu'il y avait des méthodes qui faisaient dormir bébé. Notamment, j'avais entendu parler d'une méthode qu'on appelle la 5-10-15. Je ne sais pas si tu connais.
Malheureusement, oui.
Mais ça, pour le coup, c'est basé sur quoi ? C'est basé sur quelle observation clinique ?
Aucune observation clinique. Okay, une observation comportementale, mais pas clinique. Donc, du coup, on est vraiment sur du comportemental. C'est un besoin fondamental, le sommeil. Donc, c'est très simple de faire des raccourcis et des liens très rapides. On va, pour comprendre les choses, se mettre sur la même ligne que l'alimentation, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'alimentation est un besoin fondamental. On a besoin de manger. Idéalement, on devrait manger uniquement ce dont on a besoin. On a des contextes perturbateurs, qui perturbent un petit peu notre quotidien aujourd'hui, qui fait que notre alimentation n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'attend notre corps. Donc, on rencontre des problèmes, en tout cas, pas des problèmes, en tout cas des difficultés, des déséquilibres, on va dire, au niveau de nos poids de santé, parce que donc on va soit être en surpoids, soit être en surpoids. Donc on a un petit peu ce déséquilibre de la balance. Quelle va être notre... Donc il y a deux solutions. Aujourd'hui, on a très bien vu que si on prive notre corps de certains aliments, on va entraîner un déficit calorique et on va entraîner un déficit nutritionnel qui va nous faire perdre du poids. Est-ce que quand on fait ça, on répond aux besoins de santé de notre corps? Non. Par contre, est-ce qu'on répond à notre besoin au niveau de l'humeur, de notre image ou de contexte un petit peu autour de tout ça? Ben oui, on va répondre à ça parce qu'on va perdre ce fameux poids qui peut-être vient briser un peu notre confiance, notre mal-être, tu vois, qui vient nous impacter, on va perdre ce poids, ça c'est vrai. On va priver notre corps de choses fondamentales, mais on va peut-être effectivement perdre ce poids. Qu'est-ce qui se passe avec le sommeil? Eh bien, on va être un petit peu sur la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très simple. On a remarqué chez l'être humain que si on le dressait, d'accord, on peut très bien nous dresser, on peut très bien nous apprendre quelque chose en nous formatant complètement, et on peut dire, ok, tu as besoin... petit bébé, que je te prenne dans mes bras, tu as besoin que je réponde à tes besoins émotionnels et affectifs, mais moi je ne peux pas et je ne veux pas parce que c'est pas pour ça que tu es arrivé dans ma vie, et donc ben, on va t'apprendre à dormir, puis on va te priver de ce besoin fondamental qui est celui de contact physique, ce besoin d'être avec moi. Je veux dire, moi, je ne veux pas t'accompagner, je n'ai pas le temps de t'accompagner. Donc, on va trouver une méthode, on va trouver un moyen. Je ne peux pas ou je ne veux pas ou je ne souhaite pas ou peu importe les raisons. On va trouver un moyen que tu dormes, d'accord? Parce que moi, là, ce n'est plus possible. Eh bien, très simplement, hein, le cerveau, on peut lui parler. Hein. Si les premiers jours, je te dis, ok, je ne viendrai pas, tu peux pleurer, je ne viendrai pas, parce que l'enfant va pleurer, c'est un instinct de survie, hein. Pleurer, hurler, être en détresse, c'est l'expression d'un besoin fondamental auquel on ne répond pas. Mais si je n'y réponds pas, qu'est-ce qui va se passer? Première fois, je vais te faire attendre 5 minutes, puis vraiment, pour vraiment que ça fonctionne, je vais encore te faire attendre un petit peu plus, 10 minutes, 15 minutes, donc 5, 10, 15, et puis bah, au bout d'un moment, tu vas lâcher l'affaire, mon petit. Au bout d'un moment, tu vas comprendre que je ne répondrai pas à ton besoin. Tu vas comprendre qu'il faut que tu dormes. Tu vas comprendre que je ne suis pas là pour répondre à ton besoin. Parce que je ne peux pas, je ne souhaite pas, je ne suis pas disponible, peu importe. Mais finalement, c'est ça. C'est vraiment le corps qu'on va priver d'un de ses besoins fondamentaux, comme quand on prive son corps d'une certaine alimentation pour entraîner une perte de poids. Et bien là, ce qu'on va entraîner chez l'enfant, c'est finalement une résignation. On va apprendre à l'enfant à se suffire à lui-même parce qu'il doit en être capable. Sauf que un enfant n'est pas un être autonome. C'est un être qui n'est pas autonome et les personnes qui l'accueillent dans leur vie sont les répondants à ses besoins. Et un enfant n'a pas uniquement le besoin de manger, dormir, faire caca, faire pipi, il a besoin d'être au contact physique, il a besoin qu'on lui parle, il a besoin qu'on le regarde, il a besoin de pouvoir compter sur les personnes qui sont autour de lui pour apprendre à se faire confiance à lui. Avant même de se faire confiance à soi, on a besoin de faire confiance aux gens qui s'occupent de répondre à nos besoins. Donc au final, si ben, on m'apprend à me résigner, il n'y a pas de problème, je vais me résigner. Par contre, accrochez-vous derrière les perturbations du développement psycho-affectif de l'enfant. Et encore une fois, il n'est pas question de faire culpabiliser qui que ce soit parce que beaucoup d'amalgames sont faits. On ne parle pas de l'enfant qui pleure derrière la porte quand tu fais pipi. On ne parle pas de l'enfant qui pleure dans son transat parce que tu prends ta douche. On ne parle pas de l'enfant qui pleure une ou deux minutes avant de rentrer dans le sommeil. On parle de la volonté et de l'intention de la personne de faire dormir ce bébé avec une méthode toute faite pour qu'il apprenne à se résigner. On parle de ça, d'accord? C'est-à-dire que je prends vraiment un ton spécifique avec ça parce que je ne veux pas dire à un parent qui entend un enfant pleurer parce que je ne réponds pas de façon instantanée à sa demande que je vais entraîner des troubles psychoaffectifs. Loin de là, on parle vraiment de l'intention, ce qu'il y a dans votre cœur, ce qu'il y a à l'intérieur de vous.
Mais alors j'entends ce que tu dis et je te rejoins forcément et je te remercie de préciser le fait que le sujet dont on parle du sommeil n'a rien à voir avec le fait de ne pas avoir une réponse immédiate et aux pleurs d'un enfant, c'est pas du tout le sujet. Pour autant, est-ce que quelque part c'est pas quand même aussi très culpabilisant parce que un parent qui est au bout, tu vois, qui est très fatigué parce que son enfant ne dort pas et que donc lui non plus ne dort pas et qui est très fatigué, est-ce qu'un parent qui est au bout Est-ce que c'est pas aussi très culpabilisant qu'il entende, qu'on lui dise que bah, il est en train de faire de la privation de ses besoins essentiels à son enfant quelque part, si c'est pour se sauver lui, est-ce que c'est pas quelque chose qui serait légitime?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, légitime, oui. Est-ce que c'est le bon choix? Peut-être pas. Mais c'est légitime, d'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas... personne fait d'erreur à un moment, quand tu pètes un plomb, quand tu n'en peux plus, de laisser pleurer ton enfant. Moi, le message vraiment qui est important, c'est comprendre que quand ce genre de conseil et de méthode vient d'une autre personne que toi, il faut se poser des questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es le parent, aujourd'hui, si je décide de ne pas, ça m'est arrivé, j'ai trois enfants, j'ai trois garçons, ça m'est arrivé de dire ce soir, je ne suis pas disponible. Ce soir, je n'en peux plus parce qu'il s'est passé ça aujourd'hui avec toi, je ne peux pas. Donc, ça m'est arrivé à moi personnellement de dire, ok, là, je te laisse dans ton lit, puis écoute, tu vas certainement pleurer, mais là, moi, je ne peux pas répondre, je ne peux pas. Donc, c'est pas quelqu'un qui m'a dit, applique cette méthode, ça va le faire dormir. Non, c'est moi. C'est-à-dire que c'est moi en tant que personne. Donc, quand ça vient de vous en tant que parent, parce que vous reconnaissez vos limites et que vous dites, ok, moi, là, j'en peux plus, la première étape, c'est effectivement de dire, ok, c'est pas grave, ce soir, demain soir, après-demain soir, je lâche prise, peut-être qu'il va pleurer, c'est vrai, mais par contre, je vais aller chercher de l'aide. Je vais aller chercher quelqu'un qui va me dire qu'est-ce qui se passe avec cet enfant-là, qu'est-ce qui se passe avec son sommeil, parce que moi, je n'en peux plus. Tu comprends? C'est-à-dire que la démarche, moi, ce que je demande vraiment, c'est de la considération. Aujourd'hui, si toi, en tant que femme ou en tant qu'homme, tu ne dors plus la nuit, tu as des insomnies, que tu as des problèmes de sommeil, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir un professionnel qui va t'aider. Alors, fais-le pour ton enfant aussi. Tu comprends? C'est-à-dire que fais-le pour ton enfant. Et le jour où quelqu'un te dit, écoute, il faut que tu laisses pleurer ton enfant 5, 10, 15 minutes ou laisse-le hurler à la mort ou machin, il va dormir, je sais que chaque personne qui aujourd'hui a essayé ce genre de méthode l'a fait en ne répondant pas à son propre besoin de parent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune maman, aucun papa, aucun parent, aucun répondant qui m'a dit « j'ai fait ça de bon cœur et ça m'a fait du bien ». Tu comprends ?
Ouais, je comprends.
C'est-à-dire qu'il y a une énorme nuance en fait. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu dis « moi, j'en peux plus, je ne peux plus », aujourd'hui, oui, il va pleurer et je le sais qu'il va pleurer, mais moi, ça me fait du bien. Mais si je le fais et que je sais que j'ai ce petit pincement au cœur qui me dit « Oh là là, je ne suis pas capable de le laisser. Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de… » Tu sais, ce petit truc à l'intérieur, là, cette petite voix qui te dit que tu ne fais pas le bon choix. Écoute cette petite voix. Mais parfois, elle va te dire que tu fais le bon choix, cette petite voix, quand tu le laisses pleurer. Tu comprends? C'est le plus important, c'est vous. Mais voilà, je pense que la nuance, elle est importante à comprendre pour ne pas être dans cette position de culpabilité parce que tu le fais. Mais au contraire, prends le pouvoir et dis-toi « Ok, là, ce soir, je ne suis pas capable, mais peut-être que ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher de l'aide. »
Mais pour le coup, tu vois, je reste sur ce parent épuisé qui n'en peut plus, qui aimerait que ça se passe bien, mais ça ne se passe pas bien, tu vois. Et puis, il va chercher de l'aide. Et là, on lui dit « Tiens, écoute-moi, pour 900 euros, dans 15 jours, je fais dormir ton gamin. Et c'est fini. Tu n'auras plus de problème. » Parce que c'est des choses qu'on voit sur Internet, sur les réseaux.
Je sais.
Alors, désolé, je suis peut-être un peu cash, mais…
Non, mais t'as raison.
Mais c'est des choses qu'on voit.
Je vais prendre un exemple très simple et qui parle énormément quand je l'utilise. On a cette personne qui a pris ou a perdu du poids. Okay? Puis, tous les jours, elle a ce poids qui lui fait mal devant les yeux. On sait très bien, donc elle va commencer, comme c'est comme ça aujourd'hui que ça se passe, hein, on va commencer à taper sur Google ou sur un moteur de recherche, perte de poids, prise de poids, etc. Il y a des petits espions dans nos ordinateurs qui vont nous proposer des choses typiquement sur les mots-clés qu'on a tapés. Et puis là, toi, tu es là, tu as tapé ça. Donc, ta première démarche, elle a été de chercher de l'aide. Génial. Donc, super. Puis tu dis, oh là là, tu sais, je ne sais pas, peut-être que je peux y arriver toute seule. Je vais essayer toute seule, je vais trouver la méthode sur Internet, puis ça ne marche pas, etc. Puis, on te balance des pubs, on te balance du marketing, on te balance des choses qui disent, ou ta voisine, ou ta copine, ou peu importe, te dire, oh ben moi, j'ai vu une fille là, ben pour 900 balles, tu payes, tu donnes 900 balles, au bout de deux semaines, ton bébé, il dort. Ou alors, j'ai vu un coach en nutrition, expert en machin, qui en deux semaines, tu perds 15 kilos. Ok ? Tu sais que c'est douteux. Tu dis, ah, c'est bizarre. Attends, moi, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas capable de faire… Tu sais, je suis capable de le faire toute seule. Je suis capable de perdre ou de prendre mon poids. Puis, tu es fatigué. Un jour, tu montes sur la balance. Et une énième fois, là, c'est la vue de trop. C'est la vue de trop. C'est la nuit de trop. C'est la journée de trop. Et là, tu te rappelles, puisqu'on a planté dans ta tête ces petites graines. Ah, mais c'est vrai. Il y a cette personne-là qui fait des miracles. Allez, c'est bon, je prends son programme. Dans la foulée, tu prends son programme. De perte de poids, de prise de poids, de coach sommeil, de machin, de miracle du sommeil, de tout ce que tu veux. Au fond de toi, tu sais, d'accord ? Mais tu le fais quand même parce que tu te laisses la chance d'y croire, en fait, d'y croire. Et puis, sur un malentendu, ça peut fonctionner, d'accord ? Ça peut fonctionner simplement si ton enfant, la perturbation au sommeil qu'il rencontre, elle n'a rien à voir avec un problème de rythme, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Et tu le sais, mais souvent, malheureusement, c'est rare de se dire « Oh ben, zut, j'ai fait une erreur », tu vois. Et puis, les erreurs, les mauvais choix sont source de construction identitaire. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on fait des erreurs qu'on est un mauvais parent. Ce n'est pas parce que parfois, on fait des choix qui ne sont pas OK qu'on est un mauvais parent. Il n'y a pas d'histoire de culpabiliser. Tu l'as fait. Tu as pris ton coach. Tu as dépensé tes 900 balles. J'espère que tu avais des économies. Mais tu vois, tu l'as fait. Bah, tu as appris, en fait. Je veux dire, même si ça a marché, tant mieux pour toi. Mais malheureusement, si ça n'a pas fonctionné, tu auras essayé. Tu seras allé au bout de ce que tu as essayé. Maintenant, moi, j'en veux un petit peu, si tu veux, aux gens qui… tout ce marketing, un petit peu. Parce que si maintenant, on te met des professionnels de santé qui sont formés, et qui, comme pour l'allaitement, et qui vont te… Je veux dire, c'est dans les moteurs de recherche, si c'est nous qui… On apparaît en premier. Sauf que moi, je ne suis pas dans la communication, dans le marketing. J'y connais rien à tout ça. Donc, tu vois, je veux dire, on est formé à l'école d'infirmière. On est formé, je veux dire, dans des endroits où on n'apprend pas tout ça. Donc, on ne sait pas faire. Donc, mais si on nous mettait en avant, si le médecin, et ça commence parce que les choses sont en train de changer. Moi, j'ai beaucoup de pédiatres aujourd'hui, de médecins qui nous recommandent en disant, bah, y a une infirmière, il y a un centre de santé qui est spécialisé là-dedans. Allez les voir. Et puis, on travaille en collaboration. Moi, c'est ça, c'est mon rêve, c'est celui-là. C'est de me dire aujourd'hui, d'être dans les cabinets de médecins, c'est la consultation infirmière qui va être complémentaire à la consultation du médecin. Moi, je comprends que le médecin n'ait pas le temps de passer une heure ou plus avec un patient pour comprendre ce qui se passe. Mais moi, je suis là, c'est mon travail, le paramédical. Donc, tu sais, voilà, je me dis encore une fois, l'argent, le nerf de la guerre, et les soignants sont toujours relégués au deuxième niveau, même le dernier. Mais du coup, c'est un autre débat. Mais donc, chers parents qui un jour avaient fait appel ou comptaient faire appel, faites-le en fait, faites vos propres expériences, surtout si c'est votre premier enfant. Moi, j'en ai fait des erreurs, j'ai fait des choses qui n'étaient pas, tu sais, qui m'ont appris à devenir un autre parent avec un deuxième, puis un autre parent avec un troisième, et puis si j'avais un quatrième, je serais encore un autre parent. Mais tu sais, ne regrettez pas de l'avoir fait, ne culpabilisez pas de l'avoir fait ou de vouloir le faire, mais apprenez de vos erreurs, c'est tout.
Si je comprends bien pour le coup, le message qu'il faut entendre, c'est que déjà, premier point, dans les premiers mois de vie, le sommeil de l'enfant, c'est tout à fait normal qu'il soit très anarchique.
Complètement. Voilà.
Ensuite, après les quelques premiers mois de vie, il y a une phase où il va construire des cycles et de toute façon, cette phase, elle va évoluer. Donc, comme tu disais, si je comprends bien, de allez, 7 à 10 mois jusqu'aux 4-6 ans, quoi, de toute façon.
C'est ça. Elle suit ce processus d'évolution.
Tout ce qui ne suit pas à peu près, hein, parce qu'on sait bien qu'il y a des exceptions, mais tout ce qui ne suit pas à peu près ce cycle-là, c'est qu'il y a peut-être une cause pathologique à aller chercher dans une vision globale de l'enfant. Okay.
C'est tout aussi simple que ça.
Et si on est épuisé, toi, tu conseilles donc de consulter des professionnels de santé formés spécifiquement sur le sujet du sommeil de l'enfant. Et en même temps, quand on voit parler des méthodes, parce qu'on a parlé du 5-10-15, mais il y en a d'autres des méthodes. Il y en a d'autres des méthodes qui existent et qui sont en effet des méthodes qui sont présentées comme un peu des méthodes miracles. À ton avis, même si moi j'ai une réponse très personnelle, mais à ton avis, pourquoi ça marche, quoi ? Alors j'entends l'épuisement, j'ai entendu ton parallèle avec le régime, mais sauf que le régime, les kilos, on les reprend après, quand ça ne marche pas. Alors pourquoi est-ce que ça marche ? Est-ce que l'équivalent des kilos repris, ça existe sur le sommeil ?
Oui, ça existe dans le, ça existe dans le, dans le, dans le, dans la structure psycho-affective de l'enfant. Ça existe dans le comportement socio-affectif de l'enfant et dans son développement intérieur. Moi, j'ai commencé, j'ai la chance d'avoir suivi un processus. En gros, moi, j'ai commencé avec, à travailler dans ce domaine avec les adolescents, ensuite avec les plus petits, ensuite, enfin, j'ai fait de la pédopsychiatrie. Je suis descendue, en fait, en âge. Au fur et à mesure du temps. Qu'est-ce que ça m'a permis de comprendre? Ça m'a permis d'être confrontée et de prendre en charge à un moment des troubles psychopathologiques, psycho-affectifs, psycho-émotionnels de grands. D'accord? Pour comprendre certaines pathologies, pour comprendre certains troubles du développement, on a besoin de remonter à la source. On a besoin de remonter au départ des choses, des fondations qui ont été posées. Qu'est-ce qui a été donné à cet être humain pour qu'aujourd'hui il vive ce genre de choses? Et quand on remonte, aujourd'hui, moins on a donné, moins on a répondu de façon globale et optimale aux besoins affectifs et émotionnels de l'enfant, plus on a de chances d'avoir une instabilité psycho-émotionnelle. Alors, est-ce que j'ai des recherches à te donner? Non, je n'en ai pas. Parce que ce n'est pas, c'est des recherches qui sont très très longues, très très longues, et qui impliquent plusieurs corps de métier, intergénérationnels, interdisciplinaires, plurigénérationnels, et malheureusement, en tout cas en Europe, on n'en est pas du tout encore là sur ce genre de recherche-là. Je te dirais qu'on est beaucoup plus avancé en Amérique du Nord, où vraiment on est déjà sur ce genre de choses-là. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ces raisons que tout ce qui est éducation tournée sur le positif, autant dans le système scolaire qu'ailleurs, a fleuri énormément. Vraiment, ce boost de confiance est extrêmement présent dès les structures de petite enfance de l'enfant ici. Okay?
D'accord.
Donc, c'est une énorme différence et on peut. Voilà, c'est pour ça que souvent le sujet est sur Internet et sur les réseaux et peu abordé parce que tu as toujours des détracteurs de la pensée alternative qui viennent te demander des chiffres, des recherches et compagnie. Chose qu'aujourd'hui on ne peut pas. C'est du bon sens pour moi. C'est du bon sens parce que quand on explique les choses, si aujourd'hui je n'apprends pas à un enfant à avoir confiance en moi, son parent, son répondant, comment est-ce que je peux lui apprendre à avoir confiance en lui et comment je peux lui apprendre à compter sur moi? Qu'est-ce qui va se passer? Le revers de la médaille, c'est la construction émotionnelle et affective de l'enfant vers les 18 mois, 2 ans. Vous savez, ce moment où l'enfant va vivre des processus de développement plutôt psycho, enfin, je veux dire, psycho-émotionnel, psycho-affectif, l'enfant de 2 ans qui va découvrir les émotions, qui va vivre un petit peu ses tempêtes émotionnelles, qui va ne pas savoir gérer en fait. Mais si cet enfant-là, on lui a jamais appris à compter sur nous, à quel moment vous voulez qu'il vous écoute? À quel moment vous voulez que cet enfant que vous avez laissé pleurer pour apprendre je veux dire, son sommeil, pour qu'il réponde à un de ses besoins fondamentaux, vous l'avez laissé se gérer tout seul, vous lui avez dit, OK, moi, je ne suis pas là, eh bien, au final, comment vous voulez que cet enfant qui va se construire à un moment donné, c'est des empreintes émotionnelles qu'on laisse dans le cerveau d'un petit enfant. À quel moment il va se dire, ah ben, ces fameuses personnes, donc mes parents, si c'est les parents, les répondant à mes besoins, ben, je sais que de toute façon, ils sont pas là. Donc, qu'est-ce qui va se passer, ces tempêtes émotionnelles? Eh bien, elles vont monter, elles vont monter, elles vont monter, elles vont monter. Et finalement, ben, on se dit d'où ça vient. Et quand on remonte, ben, on s'aperçoit un petit peu de tout ça. Donc, c'est pour ça que il est nécessaire de faire confiance aux formations des professionnels médicaux et paramédicaux parce qu'on a l'expérience de terrain, on le sait. On n'a peut-être pas le parcours des chercheurs universitaires, mais on a l'expérience de terrain, on le sait, on le voit, on l'observe. Et j'ai envie de te dire, quand un enfant ne veut pas manger, est-ce que vraiment on lui ouvre la bouche, on lui fout la cuillère et on lui ferme la bouche sur la cuillère? Je ne crois pas qu'aujourd'hui on fasse
Non.
ça. En tout cas, on essaye de ne pas le faire. On essaye de voilà. En tout cas, on n'appuie pas sur sa mâchoire pour ouvrir et rentrer la cuillère et fermer la mâchoire sur sa cuillère et tu manges. Pourtant, c'est un besoin fondamental comme le sommeil. Donc, je sais que la différence, c'est qu'il y a aussi nos propres besoins en tant qu'être humain. Mais il faut vraiment se dire que si mon enfant ne dort pas correctement, c'est qu'il y a quelque chose qui le freine. Et on le sait, on ne se contente pas de la réponse, c'est normal. Non.
En termes de besoins, parce que tu vois, en t'écoutant, je me dis, ok, très bien, j'entends, et je te rejoins, hein, bien sûr, fatalement, sur l'idée du besoin, il y a aussi de l'attachement derrière, bien sûr. La question que je voudrais te poser, c'est à ta connaissance, est-ce que, si par exemple, parce que je pense forcément aux parents qui font de leur mieux, et qui font de leur mieux, et qui sont à bout, et voilà, est-ce que, selon toi, selon ton expérience, est-ce que pour le coup, demander du soutien à quelqu'un, à des amis, à de la famille, même pour ces phases d'endormissement, ça peut aussi être une solution. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, tu vois, moi, enfin, je sais pas, j'imagine le parent qui rentre au bout de sa journée, il est crevé, l'enfant là, ce soir, il peut pas. Est-ce qu'une autre figure d'attachement ou un ami, quelqu'un peut prendre cette place dans l'accompagnement?
Mais c'est la base, ce serait la base. C'est ça le problème de notre société, d'accord? De notre société très occidentalisée. C'est ça le problème même de la maternité, des difficultés qu'on peut vivre dans ce processus-là, de la paternalité ou la maternité. C'est ça, c'est qu'on est tout seul. Et c'est ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas la norme. Ça, c'est pas le commun. Ça, c'est pas les choses naturelles, d'accord? On ne doit pas être tout seul dans cette période aussi vulnérable dans la vie d'un être humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parent, là, je parle avec une posture professionnelle pour vraiment vulgariser, essayer de comprendre et de faire comprendre. Je me place en premier lieu, les premières personnes que j'accompagne, surtout dans le sommeil, ce sont les parents. Ça, ce sont les premières personnes aujourd'hui que j'accompagne. J'ai accompagné l'enfant pendant des années. Je dis, j'ai commencé très tard, je suis allée jusqu'en réanimation néonatale, donc 24 semaines de prématurité. Enfin, tu vois, je veux dire, j'ai vraiment, donc pendant des années, j'ai accompagné l'enfant et c'est grâce à cet enfant que j'ai eu envie d'accompagner le parent. Aujourd'hui, c'est le parent que j'accompagne. C'est de dire, OK, là, t'es à bout, t'en peux plus. Je suis la première à leur dire de trouver du relais. Je suis la première à avoir monté même un réseau de solidarité pour que des bénévoles aillent passer 3 heures chez les familles pour les soulager quand ils rencontrent des difficultés. Je suis la première à être membre de l'association Stop Bébé Secoué pour justement se dire, OK, quand on a, je crois que j'étais la première adhérente, quand on a un bébé qui pleure, qu'on ne comprend pas et qu'on a atteint ses propres limites en tant qu'être humain, OK, on le pose et on va chercher de l'aide en fait. Donc le premier réflexe qu'on devrait avoir, c'est ce soutien, cette aide. Et j'ai envie de te dire que ça ne devrait même pas venir de nous en fait, ça devrait, de nous en tant que parents, ça devrait venir de l'entourage. Je vais te donner un exemple très personnel. J'ai 3 enfants, mes 2 premiers sont nés en France. Je n'ai jamais été chez moi les premières semaines, premiers mois même, de vie de mes enfants. J'ai tout de suite pris mon bagage et je suis allée chez ma mère parce que, et mon père a passé des heures je veux dire, à être avec mes enfants, ma mère. Je n'ai jamais été seule. 3e bébé, je l'ai eu au Canada et j'étais toute seule. Enfin, toute seule, avec mon mari si tu veux, mais on était seule, quoi. Et ma mère, vraiment, c'était quelque chose qui lui a coûté de ne pas pouvoir être là. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, pour vous donner, je veux dire, un exemple, et que la solitude n'est pas normale en maternité, c'est qu'en fait, elle m'a envoyé de l'argent pour que je puisse prendre une femme de ménage qui vienne faire le ménage tous les jours pendant les 3 premiers mois de vie de mon bébé, pour que je puisse me concentrer sur mon bébé, ok? Donc, tu sais, et par exemple, ce que j'ai découvert aussi au Canada, j'ai fait appel à un organisme qui s'appelle Marraine Tendresse. Ce sont des bénévoles, donc j'ai un peu mis sur le même modèle Solidarimum. Et bien en fait, si tu veux, ce sont des bénévoles qui viennent 3 heures par semaine. Pas pour garder ton bébé, que tu ailles faire les courses, non, pour t'es chez toi, tu n'as pas le droit de sortir. Soit tu prends une douche, soit tu dors, soit tu discutes, peu importe, mais tu as ce relais-là en fait. Donc, ce qui fait que ça te permet de tenir. Il est évident que seul, c'est difficile de guider un navire. C'est très dur. Surtout quand il y a des tempêtes, d'accord? L'adulte qui accueille un enfant, donc je généralise vraiment l'adulte qui accueille un nouveau-né dans sa vie, est vulnérable. Il est dans un processus de vulnérabilité, dans un processus identitaire de changement. Il se crée une nouvelle identité. Il vit sa chose, lui, de son côté ultra difficile. Et d'un autre côté, il a un être qui est complètement dépendant de lui parce qu'il ne sait pas répondre à ses besoins de façon autonome. Donc, il est plus qu'évident que les parents qui nous écoutent aujourd'hui, et même les non-parents, l'entourage ou peu importe, il est plus que nécessaire d'arrêter d'acheter des transats, d'arrêter d'acheter des mobiles de lit, mais d'offrir du temps à ses parents qui accueillent un enfant. Parce que au-delà du matériel, la préparation d'un enfant ne se fait pas matériellement. Elle se fait psychiquement. On fait de la place et en formation, je le dis aux filles, on regarde, le parent, il peut avoir la meilleure chambre Pinterest du monde, mais est-ce qu'il a la place d'accueillir cet enfant dans sa tête? Tu comprends? Et ça, c'est important parce que au moins, tu sais un petit peu à quoi t'attendre et les gens qui sont autour doivent permettre aux parents d'avoir du temps. Donc, je ne peux pas taper, moi, comme je te dis, ce n'est pas sur les parents. Les parents, On fait ce qu'on peut. Je suis maman. Je dis toujours, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Moi, c'est les institutions, c'est les gens autour qui ne mettent pas en avant les ressources qui peuvent venir aider ces parents-là. D'accord ? C'est ça qui est pour moi. Voilà, comme je te dis, j'ai mal quand une maman me contacte et me dit, avant vous, j'ai fait appel à tel machin. Je me dis, oh, qu'est-ce que j'ai foiré ? Qu'est-ce qu'on a foiré ? Qu'est-ce qu'on a foiré, nos institutions, même si c'est privé, mais qu'est-ce qu'on a foiré pour pas dire à ses parents qu'il y a d'autres solutions. Et c'est notre responsabilité en tant que professionnel. Et là, je m'exprime vraiment en tant que professionnel. En tant que maman, en tant qu'être humain, je veux dire, et même en tant que professionnel, on va dire, je veux dire, les parents, vous êtes pour rien en fait, parce que c'est notre faute à nous. C'est notre faute à nous, institution, c'est notre faute à nous si on ne sait pas communiquer correctement, c'est notre faute à nous si on ne nous donne pas plus de place, parce qu'on n'est pas le changement. Et aujourd'hui, je répète que si j'ai construit tout ça, et si aujourd'hui je me suis spécialisée dans, c'est parce que je veux faire partie de ce changement-là. Je veux être, je veux dire, comme Virginia Anderson, qui a fait partie du changement dans le soin infirmier, comme tous ces grands psychanalystes qui ont fait le changement, qui ont été le changement. Donc, soyons le changement en étant présents pour ses parents, parce que ce n'est pas leur faute, c'est la nôtre, vraiment.
Écoute, je trouve que ça fait une très belle fin. Je vais juste rappeler, comme tu le dis très justement par rapport au transat et tout et au temps, que sur le site d'Ingrid Bio, il y a justement un chéquier gratuit hein, qui existe, un truc à imprimer, justement pour les postpartums, pour un petit plat, une session de ménage. Pour le Canada, il y a même le déneigement qui est prévu de la porte. Donc
c'est
voilà.
Donc surtout, ça, c'est ce qu'on offre.
N'hésitez pas.
On offre ça, Cédric, dans les baby showers. En fait, on offre, c'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup de matériel, c'est vraiment culturel, où on offre du temps. C'est-à-dire qu'on offre, chacun dit qu'est-ce qu'il va faire pour la future maman à l'accueil du bébé, tu vois. Ouais, et c'est génial, offrez-vous du temps, c'est vraiment ça, voilà, s'offrir du temps, et donc Ingrid est ma voisine, hein. Donc du coup, on a vraiment, voilà, je pense que c'est génial, donc ouais, aller carrément prendre ce chéquier, c'est voilà, le temps.
Merci beaucoup Audrey pour ton expertise. Merci. Et ton temps.
Merci à toi Cédric, à bientôt.
Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hop, c'est encore moi. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.